bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse. Il n'y a pas eu de match, effectivement, il y a un petit break avant les matchs du play-in, mais il y a quand même un CQFR, bien sûr, et on a de l'actualité à décrypter, Shai, et on va commencer par les Jeux Olympiques. On va se projeter un peu sur le mois de juillet, sur le mois d'août, avec une début d'annonce. On a la liste quasiment définitive, en tout cas sous réserve de forfait de Team USA, et ça fait peur. Je vais te donner la liste et je vais te laisser réagir. Parce qu'on a effectivement une Dream Team, chose que tu nous annonces depuis plus d'un an quand même. Presque un an, je tiens à le souligner. Tu avais vu juste, en tout cas, si on reste sur la liste qui est pour l'instant fournie par Adrian Wojnarowski, par ses sources, on partirait sur du LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, donc les trois de la génération, hein, leur dernière danse, leur Dream Team à eux, avec Joel Embiid, Anthony Davis, Devin Booker, Anthony Edwards, Jason Tatum, Jrue Holiday, Bam Adebayo et Tyrese Haliburton. En gros, si je dis pas de bêtises, il n'y a que du All-Star. Bon, Holiday, c'est un peu moins All-Star cette saison, mais on a compris, on sait qu'il a quand même cette étiquette. Il reste une place à pourvoir, mais on a un effectif flippant.
C'est, bon, ça va mériter, en tout cas, c'est ce que LeBron, je pense, voulait. Ce qu'il faut dire qu'il est à la tête, il est quand même moteur dans ce projet-là. À partir du moment où il a acté qu'il voulait jouer des Jeux Olympiques, il y avait cette idée, je pense, de faire partie d'une Dream Team pour marquer le coup dans sa génération, d'être le patron d'une équipe américaine. Et ça remonte à. J'étais en train de regarder, ça remonte à septembre 2023, je crois.
Un peu avant même.
Un peu avant, ouais.
Tu as regardé combien tu en avais en commun, parce que tu en as quand même 7 pour le moment en commun.
Ouais, je me suis fait avoir.
Même août.
Ouais, je me suis fait avoir par Draymond Green que j'avais mis dedans. Entre-temps, il n'avait pas encore pété un boulard sur le terrain et, au point de ne plus être désiré. J'avais mis Zion aussi, mais il est pas dedans. Et Kawhi, alors, parce qu'il reste une place parmi tous ceux que tu as dit, c'est déjà un roster absolument monstrueux. Il reste une place qui pourrait être Kyrie Irving, auquel cas Théophile Messer devrait acheter un maillot de l'Olympique de Marseille. Selon notre pari, ou ça peut être Kawhi aussi. Donc, bon, l'effectif est monstrueux. Je sentais le coup de la Dream Team parce que c'est LeBron. Parce que, à partir du moment où The Athletic avait dit LeBron a pris son téléphone et a appelé Steph Curry, Kevin Durant pour leur dire, les gars, on doit marquer notre génération, on est sur la fin. Il faut marquer le coup. Ce sera peut-être la dernière fois avant longtemps qu'il y aura une équipe américaine aussi compétitive sur le papier. Mais elle sera là. Après, la question, c'est, et je sais que nos avis diffèrent un petit peu dessus, moi je pense que c'est encore imbattable à cette heure-ci. Mais d'autres,
je pense qu'ils sont pas loin. Ouais, ça va être dur d'aller chercher là.
Ça va être quand même très dur. Mais c'est un effectif qui fait peur. Hein. Parce qu'il y a pas que des vieilles stars sur le déclin. Hein. Il y a pas que LeBron, KD, Curry. Il y a quand même des stars remontantes comme Jason Tatum, Devin Booker, les stars de maintenant. C'est un effectif qui fait peur. Ouais.
Moi, la raison pour laquelle je pense qu'ils seront difficiles à battre, c'est que j'ai l'impression qu'on est encore pile dans cette espèce de creux où, comment dire, ils sont dans la période, le timing joue éventuellement en leur faveur, c'est-à-dire qu'ils ont encore plein de vraies légendes américaines qui, je pense, peuvent encore contribuer tout en ayant les Edwards, les Tatum, les Booker qui apportent un peu de sang, un peu de jus parce qu'ils ont besoin, tu peux pas y aller que avec des trentenaires bien tassés. Et je pense que l'Allemagne, par exemple, est dans son ascension, mais il lui manque le talent générationnel pour vraiment rivaliser avec les Américains. La France a le talent générationnel, mais il vient d'arriver, ça va être sa première campagne avec Léa, Victor Wembanyama, donc je pense qu'il sera pas prêt tout de suite à vraiment concurrencer. Quand je parle de concurrencer, c'est au point de se dire, bah ouais, non, mais là, la France va gagner la médaille d'or, tu vois. Là, on peut pas dire la France va gagner la médaille d'or.
Non.
Dire ouais, ils seront peut-être dans la course si tout clique bien, il y a un monde ou peut-être effectivement, mais ça domaine, c'est plus du rêve que ça relève plus du rêve que de la certitude, je trouve.
Oui.
L'Espagne est dans un changement de génération. La Serbie a le talent, mais il y a toujours déjà la Serbie a des problèmes quand elle est attendue. Il y a toujours pas eu. Il y a eu une campagne avec Jokic où ils font finale des JO, c'est en 2016, mais voilà. Il y a un peu, je trouve que ça manque un peu de certitude autour de la Serbie. La Slovénie n'est pas qualifiée pour l'instant et Luka Doncic a beau être formidable, il n'est quand même pas assez entouré, je pense, pour battre une armada comme ça de Team USA. Après, sur un format de compétition, bien sûr, tu vois, sur une finale, tu ne sais jamais. Mais j'ai l'impression que là, pour cette campagne de Jeux Olympiques, celle-là, ils peuvent encore aller la chercher, mais pas de 40 ou 50 points comme le dit Kevin Durant. par contre, c'est peut-être je pense que c'est la dernière Je pense, de mon avis, on est encore trop loin évidemment pour se projeter. Je pense que c'est la dernière campagne olympique où le Team USA part avec un truc de se dire « Ouais, bon, a priori, quand même, ils vont gagner. » Je pense que dès 2028, quels que soient les joueurs, on verra, peut-être que je me trompe, hein, c'est dans longtemps, il y aura des jeunes d'ici là, des jeunes Américains qui vont se développer. Mais je pense que dès 2028, il y aura sur la ligne de départ, les Team USA n'aura pas un pied devant par rapport à certaines nations européennes, je pense.
Ouais, alors je ne sais pas si...
On verra.
Ouais, je sais pas si Kevin Durant aura raison. Je pense qu'il y aura quand même une marge assez importante par rapport à la plupart des équipes. Parce que Kevin Durant, c'est en FIBA, c'est quand
40, même 40-50 points.
Non, ah, t'as pas 45. Contre France, Canada, je pense pas qu'il y aura 40-50 points, sinon c'est problème. Le Canada, pour moi, c'est l'équipe qui a le plus de chance parce que s'ils viennent en full force, ils ont un effectif de joueurs NBA dans la force de l'âge qui sont vraiment bons. Ça reste inférieur à ce que va envoyer. Enfin voilà, faut rappeler juste le trio de base, le trio légendaire LeBron, KD, Curry pour cette génération-là, c'est d'une violence inouïe. Et on n'a pas encore complètement parlé de tous les autres. Mais,
non, mais les mecs ont 38 piges. Hein.
39 piges pour LeBron. LeBron a 39, après les autres, ils sont encore à. Ça va, et c'est encore
un physique, le jeu FIBA.
Ouais, mais ils peuvent se permettre de jouer 15-20 minutes. Et il n'y en a pas un qui va devoir. Qui est obligé de mettre 40 points pour sauver la patrie, a priori. S'ils font vraiment bien le job de se préparer, de faire un camp d'entraînement, je pense qu'ils vont développer les automatismes et ça va aller. Il n'y a pas de problème. Ils se connaissent tous en plus. Donc.
C'est marrant, moi je pense qu'il y en a un qui devra mettre justement 40 points, peut-être pas un de ces trois-là, mais je pense que même aujourd'hui, alors je les vois gagner, hein, je les vois gagner la compétition, mais je pense qu'ils auront besoin de ce mec qui met 40 points, ça fait bien longtemps, ça fait depuis 2008, donc depuis, regarde, les années, la finale de l'an 2000, ils gagnent de 10 points contre la France, il y avait 4 points d'écart à 4 points de la fin. À 4 points de la fin du match. 2004, ils perdent. 2008 et 2012, il leur faut ce mec héroïque qui est Kobe Bryant. 2016, je me souviens plus trop. Si, 2016, ils se baladent. C'est la Serbie en finale. Et 2021 à Tokyo, heureusement qu'il y a Kevin Durant. Moi, je pense qu'ils sont arrivés au stade où même quand on voit tes meilleurs, il te faut un mec qui domine. Quand je dis, c'est peut-être pas mettre 40 points littéralement, mais il faut que tu aies un mec qui à un moment prenne le match en main. Je ne sais pas si LeBron, Curry, Kevin Durant sont capables de le faire. Je sais que le Kevin Durant FIBA, j'ai eu l'occasion de le voir de mes propres yeux, mais enfin, pas non, j'ai pas eu l'occasion de le voir de mes propres yeux, j'ai une connerie, enfin, à travers ma télévision, mais je n'étais pas là à la Coupe du Monde. Mais bien sûr qu'il domine comme jamais, mais c'est plus le même joueur. Non,
d'habitude, il y a une superstar et autour des bons joueurs. Là, c'est que des stars, c'est que les meilleurs joueurs de leur propre équipe. Enfin, ça me paraît assez. Ouais, je veux pas être défaitiste, hein, mais puis c'est bien. Franchement, c'est bien qu'à Paris, il y ait comme ça une constellation de stars. Un truc. Je reviens sur l'étiquette Dream Team qui me paraît important parce que voilà, nous, on est un peu. On va jouer la nostalgie, même si. Moi, j'étais pas. J'avais 5 ans quand il y avait la Dream Team, mais culturellement, ça a été important pour plein de gens. Et je pense que LeBron et les autres vont vouloir avoir cette équipe-là, pouvoir dire j'étais de la Dream Team de 2024, tu vois, et en espérant recréer des vocations, des trucs comme ça. C'est comme ça que je vois le truc. Et c'est pour ça que là, ils savent qu'ils ont une responsabilité, ils savent qu'il y a une pression gigantesque. T'imagines si les Américains ne gagnent pas avec cette équipe-là? Parce que
les autres équipes ont moins peur. Hein. Et tu sais, ils jouent tous en NBA, ils les affrontent, hein, ces mecs-là. Ils voient le vent tourner.
Ouais. Mais tu vois, même si, ok, alors LeBron, il tire la langue parce qu'il est trop vieux, KD, il fait attention parce qu'il a mal au genou. On a même pas... Il y a Joel Embiid, peut-être.
Pour moi, c'est lui qui va être la locomotive. Mais Embiid, déjà, il faudra voir dans quel état de santé il est. Pareil pour Anthony Davis. Tu vois, il y a encore des forfaits potentiels. Pour moi, Embiid, c'est peut-être au final celui qui va être leur meilleur joueur. Quand on a fait un top 10, on a fait quoi ? Top 20 des meilleurs joueurs NBA.
Ouais.
Le mec qu'on a le mieux classé de ces gars-là, c'est Embiid. C'est ni Curry, ni LeBron, ni Kevin Durant. Je pense qu'Embiid, pour moi, c'est leur atout. Ironiquement, la France, c'est là où elle a peut-être le plus de viande à envoyer sur lui. Ouais. Mais tu sais, même les autres noms, il ne faut jamais oublier. Jalen Brunson, il était à Coupe du Monde. Regarde le joueur qu'est Jalen Brunson. Regarde le joueur qu'il était sous la configuration FIBA. Il ne faut pas oublier qu'il y en a qui n'en ont rien à secouer, comme chaque année, comme chaque compète. Il y a toujours certains joueurs qui n'en ont rien à secouer. Jimmy Butler, c'est un excellent joueur de play-off. Il n'a rien à faire quand il joue les Jeux Olympiques, tu vois. Et ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Anthony Edwards, on verra, peut-être qu'il sera motivé.
S'il fait comme All-Star Game et que tous les matchs de poule, il tire main gauche. Bon.
Exactement, il était très très bon à la Coupe du Monde. C'était un des meilleurs joueurs, il faudra voir. Tu vois, il y a des mecs, tu ne sais pas trop. Et c'est un autre style de basket. Alors, encore une fois, moi je suis parti du postulat comme toi, où moi je pense qu'ils vont gagner. je pense qu'ils vont gagner. Je pense vraiment que cette équipe, elle, elle est encore dans le bon timing. Mais par contre, je ne serais vraiment pas surpris qu'ils transpirent à grosses gouttes par moment et qu'ils aient besoin qu'il y ait un mec qui porte l'équipe. Est-ce que Embiid sera le faire ? Je ne vois pas LeBron, dans un contexte FIBA à 39 ans, d'un coup prendre le jeu en main, il y a moins d'espace et tout. Bon. Après, ce sera peut-être par intermittence, par relais, chacun leur tour.
Mais... Ça va être très intéressant de voir justement comment ça va se... Même juste pour, tu vois, pour des gamins qui vont regarder et qui sont moins dans le truc, dans le jus que nous. Et là, on se dit, ouais, mais est-ce que ça ne va pas ? Mais bon, enfin, t'imagines, tu... Juste les noms là, c'est, je trouve ça génial qu'ils viennent. Je m'en doutais un peu avec le côté Paris, les Américains, ils adorent Paris. Ils ont, au niveau de leurs sponsors, ils peuvent trouver de quoi faire ici. Tu as des petits événements en marge des JO. Si j'avais annoncé ça, c'est parce que je l'appelais un peu de mes voeux. J'espérais déjà voir une forme de Dream Team. Je dis pas que ce serait aussi fort que la première. Hein. J'oserais pas aller jusque là, vraiment pas. Mais c'est parce que j'espérais qu'on puisse dire, j'ai vu jouer l'équipe où il y avait LeBron, Curry, Kevin Durant. Bon, Joel Embiid, j'aurais préféré ne pas le voir, mais il va y aller quand même. Et les autres, tu vois, les joueurs secondaires, Tatum,
voilà, je Tatum sais sera peut-être plus leur star. Hein. Pareil, oui. Je disais Embiid, sera peut-être plus au final leur
je
star.
Sais pas
sera
où,
peut-être Tatum le meilleur joueur.
Mais tu vois, je ne sais pas où Tatum finira dans les classements historiques et tout, mais où Devin Booker, c'est des joueurs qui sont quand même en pleine ascension, qui entrent dans leur prime. Je Holiday, un des meilleurs défenseurs à son poste, dans son registre de sa génération aussi. Et je n'ai même pas cité tout le monde. Et il va peut-être y avoir Kyrie. C'est quand même un joueur qui restera comme un joueur culte. Enfin, voilà, on va observer un peu. On vous dira qui sera le 12e. Mais ça, je me demande d'ailleurs si le 12e, est-ce qu'ils vont respecter un peu l'espèce de tradition qu'ils avaient de prendre un joueur, soit un universitaire. Du coup, après, je dis ça, je ne vois pas qui ça peut
pas de gros prospects.
Cette année Cooper Flagg, je ne sais pas s'ils ont le droit de ramener un lycéen.
Peut-être à un an près, je pense qu'ils prenaient Cooper Flagg. Genre, si les JO avaient eu lieu l'année d'après, je pense que c'était Cooper Flagg.
Ça,
mais là,
ça aurait été leur Christian Leitner, hein, un blanc de Duke qui rejoint l'effectif.
Là, je ne les vois pas ramener Donovan Klingan juste pour le fun. Quoi. genre ou Rob Dillingham.
Ouais, non, ça ne le fera pas.
Bon, allez, on passe à la suite. Il y avait une draft cette nuit, c'était la draft WNBA. Ouais. Et sans surprise, Caitlin Clark a été choisie en première position par le Indiana Fever. Tout le monde le savait, hein, c'est un peu un an après Wembanyama. Cette fois-ci, on a le phénomène Clark chez les filles.
Absolument. Alors, oui, tout le monde le savait. Alors, c'était moins évident jusqu'à il y a, je dirais, 6 mois, parce qu'il y avait encore Paige Baker, ce qui est un autre phénomène qui aurait pu, au final... C'est devenu logique, la hype était, en plus c'était énorme, elle les emmène encore en finale 2 fois de suite, son jeu aussi parle pour elle, donc oui, zéro surprise, c'était juste la cérémonie de passage et maintenant le plus difficile commence. J'avais écrit un article dessus où peut-être que je semblais sceptique alors que c'est pas le cas. Je rappelle que ça fait 4 ans que je me suis levé la nuit pour regarder des matchs des Iowa Hawkeyes chez les filles, donc c'est que vous assurer que j'étais conscient du phénomène et j'adore cette fille. Elle est en plus très, 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 très éloquente. Elle est sympa, elle est bonne cliente. Mais le plus dur commence quand même parce que là, il y a une attente un peu d'un public nouveau qui ne regardait pas du tout du basket féminin, encore moins du basket universitaire, encore moins de la WNBA, et qui va se mettre à regarder. Et je vois des filles jeunes, des ados qui se disent « Ah, je vais regarder Caitlin Clark », comme elles avaient commencé à regarder un peu Sabrina Ionescu, des filles qui ont des modèles de chaussures qui vont sortir, qui sont un peu des modèles. Donc le plus dur commence parce que là, elle va se frotter à des filles. C'est ce qu'a dit Taurasi avec ses mots à elle, en disant en gros, t'inquiète ma cocotte, on va t'attendre. Et elle a raison parce que beaucoup des gens du public nouveau qui arrivent n'est pas instruit sur l'histoire de la WNBA, qui est une histoire jeune, mais avec des joueuses monstrueuses qui sont passées par là, dont Diana Taurasi. Et elle va se friter avec des joueuses qui sont les meilleures du monde. Il y a pas, c'est pas la fac où il y a beaucoup de joueuses très très bonnes et prometteuses. Là, c'est que des pros, c'est que les meilleures joueuses du monde qui dominent tout quand elles vont en Europe, qui dominent tout avec Team USA, qui dominent tout en WNBA aussi. Et elle va avoir une cible dans le dos. Et elle a les armes, le mental pour y répondre. Mais il faut pas s'attendre à ce que je pense qu'elle mette 40 points par match, qu'elle joue toute seule et qu'elle emmène une Indiana Fever qui est absolument pas compétitive depuis plus de 10 ans et la retraite de Tamika Catchings. Faut profiter, faut l'accompagner, faut suivre patiemment ses débuts et s'enthousiasmer parce qu'elle va faire des choses dingues qu'on n'a jamais vues. Mais voilà, faut pas mettre trop de pression. J'espère que la hype va rester élevée, que les gens vont on se levait pour regarder les matchs.
La 90% des matchs des Fever seront diffusés, je crois, l'an prochain.
Aux États-Unis, en tout cas, oui. Et puis j'imagine qu'en France, j'imagine qu'en France, Bein diffuse déjà à la WNBA un match par semaine, il me semble. Et je pense qu'ils vont cibler les matchs de Caitlin Clark, même si ça fera peut-être comme un temps avec Victor Wembanyama. C'est-à-dire que si le Fever n'est pas du tout compétitif et que ça donne des matchs un peu moyens, peut-être que le choix sera moins pertinent. Mais. Ça va déclencher. J'espère que ça va aider encore plus à amener de la visibilité, de l'intérêt autour de la WNBA. Ouais.
Il y a eu deux Françaises prises dans le top 10.
Ouais, c'est Carla Leite qui était meneuse à Tarbes cette année, qui était passée par l'ASVEL, qui avait été envoyée à Tarbes parce qu'il n'y avait pas de place à l'ASVEL pour des jeunes joueuses. On avait déjà vu ça avec Marine Fautou quelques années auparavant. Et Carla Leite a été prise en 9e position par les Dallas Wings. Alors, Dallas a un effectif déjà complet, donc c'est plus un pari pour la suite. Sauf surprise, je ne pense pas qu'elle ira jouer cette année. Elle va jouer normalement à Villeneuve, qui a été en finale de l'Euroleague. Elle va jouer à Villeneuve cette année. C'est un très, très gros talent. Elle a beaucoup de qualité et je pense qu'elle a un avenir en WNBA à un moment. Et en 10e position, juste après, Leila Lacan, que le grand public a déjà vu sur des compétitions internationales avec la France. Elle est jeune, mais elle était déjà dans le groupe de Toupane dernièrement. Elle a été prise par Connecticut Sun, qui, pareil, a déjà un effectif hyper, hyper chargé. Et je pense qu'elle n'ira pas cette année, surtout une année olympique où elle a des chances de faire partie du roster. Mais dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle. Ça montre que le basket français est suivi. C'est une draft qui était annoncée générationnelle quand même. Il y a 2-3 filles qui s'en sont retirées pour se présenter l'année prochaine, mais ça reste une draft historique en termes de talent, parce qu'on parle de Caitlin Clark, mais il y a Cameron Brink, dont je pourrais parler pendant des heures, Angel Reese, qui est un personnage un peu clivant, mais qui est là aussi. Il faut dire qu'il y a 2 Françaises au premier tour. Il y a 2 Françaises dans le top 10. Donc c'est que ces filles-là ont beaucoup de talent et que le basket français a beaucoup de joueuses de grands talents. Donc elles seront pas, je me trompe peut-être, mais je pense qu'elles seront pas en WNBA cette saison, mais elles y seront à l'avenir et ça va être une raison de plus de suivre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi les matchs de New York parce qu'il y avait Marine Johannes. Il y aura plein de bonnes raisons de suivre la WNBA avec des Françaises à l'avenir aussi.
Allez, on peut enchaîner avec 2 petites infos. La première, c'est que les Nets ont trouvé leur coach. Ce ne sera pas Kevin Ollie, il a juste assuré l'intérim, ce sera Jordi Fernandez. On parlait du Canada tout à l'heure, c'est justement le coach de la sélection canadienne. Il avait fait du très beau boulot, il était assistant de Mike Brown aux Kings. Il a contribué pour le coup là aussi au renouveau des Kings et il va donc coacher les Nets. Je pense que c'est une super pioche.
Ouais, ça faisait partie. Donc il y avait 3 finalistes. Il y avait donc Jordi Fernandez et le nom de Mike Budenholzer qui était ressorti. Je pensais presque qu'ils allaient se tourner vers lui, sauf que ça a plus de sens de faire Jordi Fernandez. Ça ressemble plus à un choix pour de la reconstruction qui s'amorce, peut-être.
Pas forcément, je pense. Un coach assez jeune.
Il est quoi, un jeune quadra qui a quand même une patte un peu développement des joueurs. Budenholzer, je le voyais pas repartir d'un projet de zéro, tu vois.
Oui, mais
il
y a une notion de développement, effectivement, mais pas forcément de redémarrer à zéro, je pense. Tu vois, par exemple, quand Brett Stevens il arrive aux Celtics, effectivement, il y a une saison faible, mais derrière, ça monte vite. Là, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'un mec qui saura tirer le meilleur d'un effectif imparfait. En attendant de pouvoir reconstruire plus tard, une fois qu'ils auront récupéré d'autres pics ou qu'ils auront fini par céder leurs pics en espérant qu'ils ne les cèdent pas trop. Et vu qu'il est jeune, ils peuvent travailler sur la durée.
Tu as peut-être raison. Alors, il est jeune, mais ça fait super longtemps qu'il est dans le circuit. Et à chaque fois, il a eu des postes où, chez les Cavs, il était au Players Development déjà. Il a bossé beaucoup avec Kyrie, notamment, qui a toujours dit beaucoup de bien de lui. En 2009, il était aux Cavs, je crois. Il a commencé en 2009, donc ça remonte. Hein, tu vois, il était très jeune.
Il a bossé. Il ne pouvait pas être autre chose que Players Development.
Bien sûr. Et du coup, il a aussi bossé avec LeBron, qui avait dit beaucoup de bien de lui. Chez les Nuggets, il a passé 6 ans à Denver quand même, entre 2016 et 2022. Et pareil, il était en charge du développement des joueurs. Ils ont tous dit que c'était un super coach. Aux Kings, alors il était associé head coach, donc c'est quand même qu'il était monté en grade. et avec le Canada head coach. C'est juste que moi, je le vois avoir plus une patte développement et dans ma réflexion, ça ressemble à un coach qui va développer des jeunes joueurs.
Mais oui, ils ont déjà des jeunes joueurs, en fait. Ils ont, tu vois, développé, c'est pas forcément aller chercher des... Enfin, c'est pas forcément pour des prospects. Parce que là, justement, le but des Nets, je pense, c'est de réussir avec un effectif middle à être pas trop mauvais. Parce qu'ils ne peuvent pas tanker. On en a parlé l'autre fois, mais tu n'auras pas de prospects si tu tankes, vu que tu n'auras pas tes choix de draft. Donc, tu peux tanker, finir dernier, tu as le premier pick, c'est pas toi qui le développe, c'est les Rockets. Donc, tu vas développer qui ? Le 16e choix des Rockets avec qui tu as échangé ? Tu vas développer le 20e choix des Mavs ? Tu vois, ça n'a pas d'intérêt. Là, le but, c'est de développer les Cam Thomas, les Nick Claxton, peut-être même Mikal Bridges, les Cameron Johnson, peut-être relancer Ben Simmons, tirer le meilleur profit des talents que tu as à disposition pour essayer de au moins accrocher play-in, play-off pendant 3-4 ans. Et comme ça, peut-être même tu vas attirer une star en mode « Ah bah tiens, ça travaille bien, c'est à côté de New York. À New York, il y a déjà un tel. » Tu vois, tu peux éventuellement signer un mec. Et puis surtout, il y a un moment, tu vas finir par les récupérer tes picks, tu vois. Et puis là, tu pourras enclencher peut-être sur du tanking en ayant déjà un bon coach. Moi, comme j'ai dit, je serais très surpris qu'il casse tout parce que je ne vois pas casser tout. Pourquoi, en fait ?
Non.
Sauf si tu récupères le pick ou peut-être qu'effectivement, le soir de la draft, ils ont un coup de cœur, je ne sais pas, sur Zachary Risacher ou sur un autre mec et ils envoient Mikal Bridges, tu vois. Ça, c'est des possibilités. Mais cette équipe, elle ne peut pas juste tanker. Ce que je veux dire par tanker, c'est qu'elle ne peut pas juste essayer d'éliminer le pire effectif possible et se dire, on va viser le first pick, vu que de toute façon, ils n'auront pas le first pick. C'est-à-dire que même s'ils récupèrent le first pick à la loterie, ce ne sera pas le leur.
En tout cas, j'aime bien le choix parce qu'il a un profil original, un peu moderne. En même temps, il a de la bouteille parce que ça fait longtemps qu'il est là. Je crois qu'il a un doctorat en psychologie du sport et en comportement, observation du comportement humain. Enfin, il y a un truc, j'avais lu un article sur lui. Et c'est un gros cerveau quand même. C'est pas de l'analytique, ça tout va, mais il est très, il a le côté players coach, mais poussé jusqu'à en passer un doctorat, quoi. Tu vois, donc c'est, ce qu'il a fait avec le Canada, c'était en très peu de temps, c'était fort, au détriment de l'équipe de France notamment. Mais voilà, puis je trouve que c'est un bon choix finalement. J'aime bien quand ça se renouvelle un peu. J'aime bien Mike Budenholzer. J'aurais été content de le voir revenir, mais je pense que c'est bien aussi qu'il y ait quelqu'un de nouveau nouveau au poste de head coach en NBA qui est l'opportunité de faire ça. Les Nets, on avait vu qu'avec Kenny Atkinson, ça s'était bien passé aussi dans une situation qui était pas tout à fait similaire, mais où il fallait, c'était de l'entre-deux, c'est-à-dire qu'il fallait...
Ils n'avaient pas de pick,
et il fallait convaincre des futurs joueurs, des stars que le projet était viable et que c'était une franchise stable, bien coachée. Et peut-être que c'est aussi le but là, vu que le GM n'a pas changé, la direction n'a pas changé, ils ont peut-être l'idée de repartir sur une reconstruction patiente de ce type-là.
Ouais, moi, je trouve que c'est un très bon choix. On verra ce que ça donne, évidemment, sur la durée d'ailleurs, pas dès l'an prochain, mais je suis persuadé que les Nets ont fait un bon choix. Peut-être dernière petite info, elle concerne les Français Ousmane Dieng et Olivier Sarr. Ils ont été sacrés en J-League. OKC Blue, qui est champion de J-League en battant les Celtics de Maine, avec Ousmane Dieng, MVP des finales. MVP, il met 25 points sur le dernier match, il finit à 17 points de moyenne. Olivier Sarr a aussi fait un double-double sur le dernier match. Je n'ai plus les stats exactes, mais il a fait un double-double. Et voilà, les deux Français qui sont sacrés avant de rejoindre l'effectif du Thunder.
Ça fait plaisir parce qu'on en avait déjà parlé, mais Ousmane Dieng, je pense que s'il ne joue pas au OKC, s'il joue dans une autre équipe qui n'est pas aussi compétitive, parce que le Thunder a fini premier de la conférence Ouest, donc pour des rookies, bonjour pour s'imposer, sauf si tu t'appelles chez Tom Green. Je pense que s'il est dans une autre équipe, il est dans la rotation sans souci parce que c'est pas un jeune joueur parfait, hein. On a quand même vu des choses et voir qu'il travaille bien dans l'équipe, dans le programme de J-League, qui est le plus compétent de la NBA, parce que OKC a beaucoup utilisé ces moyens-là pour développer ses joueurs. Et le OKC Blue est toujours bon. Mark Degno a été coach du OKC Blue. Je trouve que c'est très rassurant, c'est très encourageant. Ça montre aussi que lui, il est impliqué. L'opportunité qui lui est donnée de se montrer à l'étage du dessous. Il y a des joueurs qui seraient déprimés, qui diraient moi c'est la NBA, j'étais pris dans la loterie. Enfin, et non, il a fait le job là sur cette période-là. Olivier Sarr, de toute façon, c'est pareil, c'est un métronome à ce niveau-là. Les deux sont entre le niveau J-League et celui d'une bonne équipe NBA. Je pense qu'ils pourraient tous les deux être dans une rotation NBA et jouer un peu sans que ce soit. Sans qu'on se dise, oula, ils ne sont pas au niveau. Ces deux joueurs qui ont du talent, Ousmane Dieng un peu plus, son plafond est plus élevé. Olivier Sarr, c'est un joueur très solide.
Non, c'est clair. On espère que les deux auront peut-être l'occasion de jouer. Alors, c'est pas sûr qu'en playoff, il y ait vraiment du temps de jeu pour eux, à part sur du garbage time. Mais bon, pour Ousmane Dieng, au final, c'était que la deuxième saison. Hein. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, à un moment, c'était la troisième. Il était que sophomore. C'est vrai qu'on attendait une petite évolution. Bon, le
Mais il
Thunder
croit
a
beaucoup en lui. Hein.
progressé plus vite.
Ok,
Ouais,
c'est
je
pour
pense
lui.
que.
C'est pour ça, ils veulent vraiment le. C'est ce qu'ils avaient dit. Tu vois tous les discours sur lui en pré-saison, tout ce que dit Marc Daigneault. Vraiment, c'est un projet en développement. Ils l'ont pris assez haut. Ils espèrent que d'ici un an ou deux, il soit vraiment un membre important de la rotation, parce que l'effectif va changer par la force des choses. Et il compte beaucoup sur lui. C'est un joueur avec un profil moderne. Il est hyper polyvalent. Attaque,
Exactement.
défense, il a une taille
Athlétique.
athlétique. Voilà. Donc, moi, c'est une très bonne nouvelle. Ça paraît anecdotique, mais c'est une très bonne nouvelle, je trouve, qu'on le voit aussi concerné.
Ouais, et puis c'est une bonne nouvelle pour le basket français, du coup, hein, c'est vraiment
Absolument.
quelqu'un qui peut se greffer avec Victor, avec justement Sarr, mais Alexandre Sarr, Bilal
Ouais, le
Koulibaly,
frère,
c'est le frère, bah, peut-être aussi Olivier, on verra, mais c'est un joueur à ne pas oublier parmi les talents tricolores. J'espère qu'il sera pris dans la pré-liste élargie d'ailleurs de Vincent
ce
Collet aux
serait
Jeux
bien.
Olympiques.
Sur
Ouais, mais je...
pour le fameux training camp où il y a des places à
Exactement.
gagner, c'est ça? On va voir.
Ouais, après qu'il soit pris au JO ou pas, à voir, mais qu'au moins, tu vois, il puisse se tester sur des matchs amicaux, voir un peu le groupe, prendre connaissance des systèmes. Après, même si on sait que le coach va peut-être changer, etc. J'espère qu'il sera dans la pré-liste élargie. On va se laisser là-dessus. On se retrouvera demain. On pourra faire un débrief des premiers matchs de play-in, ceux de la
Ouais.
Conférence Ouest. Donc, il y a Lakers, Pelicans et Warriors Kings. Il y aura déjà une équipe éliminée pour le coup.
Ouais. À quelle heure sont les matchs cette nuit? Aïe, je te pose une colle. Eh merde.
J'ai
Mais
pas regardé. Je
c'était
vais
pour
te
ça.
dire une
Ouais.
heure et demie et 4 heures du matin.
Parfait, ça veut dire que
Donc voilà.
les gens vont pouvoir nous suivre sur la late session et dans la foulée, au lieu d'aller se
Exactement.
coucher, enchaîner avec voilà, en
Et je
apéritif, c'est
pense que
très
c'est
bien.
ce que je vais faire. Il y a moyen qu'il y ait une petite nuit blanche de mon côté cette nuit. Mais oui, donc late session, évidemment, rendez-vous à 23 h. Et je te propose, Shai, je l'annonce du coup
Oui.
après tout le monde, je te propose qu'à minuit, on
Ouais.
lance les pronostics.
Ah.
Voilà, vu que j'arrive toujours un peu en retard, vu qu'on a d'autres Lakers qui arrivent en retard, voilà. Là, vous n'avez pas d'excuses minuit, les retours d'entraînement à Bitunka, j'ai en tête notamment là, minuit normalement, c'est bon. Hein. Minuit, on peut se faire les pronostics de la late session, comme l'an dernier. On avait fait gagner un MOOC.
Absolument.
Théo me regarde avec un regard genre semi. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais voilà, il me souffle dans l'oreillette. On peut faire gagner un MOOC aussi cette saison. Il faudra qu'on fasse à un moment le débrief des pronostics de la saison régulière. On pourra faire éventuellement gagner, par exemple, un livre Une saison en enfer sur les pronostics de la saison régulière. Je regarderai ça d'ici la semaine
Écrit
prochaine.
par un certain Antoine Pimel, d'ailleurs,
Et toute
en
la
grande
rédaction.
partie, et toute la rédaction, mais voilà, inspirationné par Antoine
Pas mal inspirationné, j'aime bien.
Pimel.
Bon, sur ce, du coup, n'oubliez pas le rendez-vous 23 h, le début de la late session, et minuit, le début des pronostics. Mais vous avez le droit d'arriver à 23 h. Hein. C'est pas parce que moi je suis en retard que tout le monde doit être en retard.
C'est
Vous
ça,
pouvez
c'est
arriver
me
avant.
laissez pas en galère, les gars, me laissez pas tout seul.
Yes, bah écoutez, bonne journée à tous et on
À
se
ce
retrouve
soir, ouais.
bientôt. Ciao,
À ce
ciao.
soir, ciao.
Alors, ciao.